Salut tout le monde et bienvenue à En deux traites. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, c'est une nouvelle voix qui est ici au balado. Donc, je me présente, Alain Lemieux. Je suis propriétaire de ferme laitière dans la région du Bas-Saint-Laurent avec ma conjointe. Nous sommes en production biologique depuis 6 ans. Certains vont probablement me reconnaître car je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sous le nom Ferme Lisière Bio. Donc, au plaisir de vous croiser sur les réseaux. Je viens de vous dire que j'ai pris la relève, donc je me dois de saluer mes prédécesseurs, Sabrina Caron, René Dutille et Jean-François Janel. Un gros merci pour votre implication au podcast En deux traites. Et puis, c'est avec grand plaisir que je prends la relève de ce podcast. Le sujet du jour aujourd'hui, la cybersécurité sur nos fermes. Et oui, c'est quelque chose qui est quand même nouveau parce que, justement, avec l'avènement de la technologie sur nos fermes, ça amène comme d'être plus connecté sur Internet, qu'on peut penser aux robots de traite, aux logiciels de régie qui sont connectés sur Internet, ou même des tracteurs. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent, parce qu'elles sont connectées sur Internet, peuvent être sensibles aux cyberattaques si elles sont mal protégées. Les cyberattaques, c'est souvent les cybercriminels, ils font à but lucratif, évidemment, pour faire chanter leurs victimes et recevoir des rançons. Ou bien, on peut penser aussi à nos gouvernements qui peuvent faire de l'espionnage. Ça, on entend parler depuis extrêmement longtemps. Ou même des événements comme cet été, les Jeux olympiques de Paris, il y avait une cellule de cybersécurité justement pour s'assurer que l'événement des Jeux olympiques ne soit pas perturbé par les cybercriminels. Il y a une entreprise de renommée mondiale qui s'appelle KPMG qui a fait une étude ici au Québec sur 154 PME. Puis, 6 PME sur 10, ils ont été victimes de cyberattaques au Québec. 6 PME sur 10, c'est quand même énorme. Et près des trois quarts des entreprises qui ont été sondées se sentent vulnérables, justement. Puis, on peut même rajouter que les deux tiers ne se sentent pas qualifiés pour la cybersécurité, pour gérer une cyberattaque, quelque chose comme ça. Donc, on peut voir que, tu sais, même si c'est pas en agricole, on parle de petites moyennes entreprises. Donc, c'est quand même des cibles de choix parce que, comme l'étude le révèle, ces entreprises-là ne sont pas forcément bien protégées. Donc, avec l'invité d'aujourd'hui, qui s'appelle Sébastien Gams, on va mettre beaucoup de clarté là-dedans. C'est ce qui s'en vient à En deux traites. Notre invité est titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives depuis décembre 2017. Il est membre du département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal depuis 2016, en janvier 2016. Il a auparavant occupé une chaire de recherche en sécurité des systèmes d'information conjointe entre l'Université de Rennes 1 et INRIAP pendant 6 ans. Sébastien Gams, bienvenue à Entre deux traites.
Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
Bon, pour commencer, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la cybersécurité et pourquoi on devrait commencer à s'inquiéter ou plutôt se sensibiliser sur les fermes laitières?
La cybersécurité, je dirais que parfois on appelle ça sécurité informatique, c'est tout ce qui est la gestion de la sécurité au niveau des systèmes d'information ou systèmes informatiques. Et en particulier, tous les objets connectés aussi qu'on trouve dans une ferme ou toutes les données qui sont récoltées par la ferme laitière, mais ça peut être aussi les données comptables ou d'autres données qui sont gérées par la ferme. Donc souvent, on définit la sécurité informatique sur est-ce qu'on est capable de protéger nos données contre des attaquants externes. Donc est-ce qu'il y a de la confidentialité sur les données? Est-ce qu'on est capable de s'assurer qu'elles ne sortent pas de la ferme sans que le fermier ne soit d'accord? Est-ce qu'on est capable de préserver l'intégrité aussi de ces données? Donc, est-ce qu'on peut s'assurer que les données ne sont pas modifiées, que seules les personnes qui ont un accès légitime y ont accès, et pas une personne de l'externe? Et aussi, surtout pour les fermes, est-ce qu'on est capable d'opérer, je dirais, la gestion de la ferme, avec la propriété de disponibilité? Donc, est-ce qu'on est sûr qu'une attaque ne pourrait pas perturber ou même arrêter complètement le fonctionnement de la ferme ou des appareils qui sont utilisés, connectés, des tracteurs intelligents, par exemple, ou d'autres capteurs qui sont présents sur place?
C'est sûr que, tu sais, traire les vaches, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment arrêter, mais avec l'avènement de la technologie qui nous a amené la robotique dans nos fermes laitières, c'est pour ça que la question d'aujourd'hui vient un peu solliciter nos esprits. Donc, et pourquoi sur les fermes laitières, on devrait s'en inquiéter? Pourquoi on serait des cibles de choix pour des cybercriminels?
Donc souvent c'est vrai pour les fermes laitières, mais c'est vrai en général pour les petites et moyennes entreprises. On a toujours le réflexe de se dire pourquoi moi je serais la cible alors qu'il y a des grands groupes qui gèrent des données de millions de personnes ou qui ont des actifs de millions de dollars à protéger. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les attaquants vont essayer d'aller vers la cible aussi qui est la plus vulnérable. Et donc souvent, sécuriser une infrastructure informatique, c'est quelque chose où les grandes entreprises peuvent mettre des ressources importantes, mais les petites entreprises ou les fermes laitières, pas forcément. Et du coup, en termes de facilité d'attaque pour un attaquant, ce sera même s'il va pas récupérer des millions de dollars, mais peut-être des dizaines de milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars si on pense à une attaque de type rançon logiciel. Essentiellement, on a observé ces dernières années que les petites et moyennes entreprises sont souvent de plus en plus victimes de ce type d'attaque-là, parce que c'est assez facile pour un attaquant. Le coût de développer une attaque devient aussi de plus en plus facile, en particulier avec les développements récents de l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que il faut pas penser qu'on est protégé parce qu'on est de petite taille. Au contraire, souvent, on va être dans le. Plusieurs attaquants vont essayer de voir s'il n'y a pas une vulnérabilité facile qui peut être exploitée pour mener une cyberattaque.
OK, je comprends, je comprends. Donc, c'est plus simple de probablement de prévoir plusieurs petites attaques sur plusieurs petites entreprises mal protégées que de planifier une méga attaque sur une entreprise hyper bien protégée.
Exactement.
Voilà, je comprends. On parlait tout à l'heure, des tracteurs qui sont connectés, tu sais, pour qu'on voit, mettons, on a vu ça dans les actualités agricoles, des tracteurs ils n'ont pas de cabine, donc ils se pilotent seulement avec, ben, avec par l'informatique, tout ça. Donc, il y a les tracteurs, mais il y a aussi les robots qui font la traite des vaches ou les logiciels qui compilent les données de troupeaux ou même pour les logiciels de comptabilité. Pensez-vous que ces systèmes-là sont aujourd'hui en 2024 adéquatement protégés?
Non, non, je dirais que d'ailleurs, c'est un des gros enjeux c'est que dès qu'on, donc en automatisant, en mettant des robots pour faire des tâches que faisait un humain précédemment, on augmente en efficacité, mais souvent, en termes, je dirais, la maturité technologique des objets connectés ou des tracteurs intelligents est souvent beaucoup plus faible que celle de nos ordinateurs, par exemple, ou d'autres équipements comme des serveurs de données de grosses entreprises. Donc, souvent, il y a beaucoup d'argent qui a été mis pour développer la fonctionnalité, mais pas forcément pour la sécuriser. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ou comme on l'a déjà dit, si on a robotisé quasiment beaucoup d'opérations qui se faisaient sur une ferme, donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut faire attention parce que si on arrive à bloquer les robots, bah essentiellement, on est capable de bloquer une grosse partie de l'activité de la ferme. C'est ça l'enjeu, c'est que parfois, ces technologies-là sont développées en termes de technologies propriétaires, donc par des entreprises qui ne vont pas être très ouvertes sur c'est quoi le standard de sécurité, le standard de chiffrement, d'authentification qui est mis en place. Et donc, ça devient aussi très difficile de pouvoir les auditer. Et il y a souvent des vulnérabilités qui sont trouvées par des chercheurs en informatique sur ces technologies propriétaires.
Donc, même si on dit que le niveau de protection en cybersécurité des produits qu'on utilise tous les jours sur nos fermes n'est probablement pas adéquat, donc on peut dire que ce soit n'importe quelle grosseur de ferme, de ferme laitière, ou qu'elle soit high-tech ou même plus traditionnelle, tout le monde est à risque.
Oui, je dirais que paradoxalement,
OK.
si vous êtes traditionnel au sens de ne pas avoir automatisé ou robotisé, peut-être que vous êtes mieux protégé. Donc, je dis pas qu'il faut abandonner la technologie, mais le fait d'automatiser et de robotiser beaucoup de choses, bah, ça amène forcément des nouvelles surfaces d'attaque que ne pouvaient pas exploiter auparavant les attaquants.
Okay.
Donc, il faut investir, je pense, dans la sécurité, ce qui est un enjeu, je comprends, pour les fermes laitières, comme ça l'est en général pour les petites et moyennes entreprises, d'avoir les ressources suffisantes pour être capable de se protéger adéquatement.
OK. Donc, tu sais, sur une ferme, mettons, depuis longtemps, on assure nos biens sur la ferme, on prend des garanties sur les équipements qu'on achète pour se prémunir contre les risques et les dangers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement contre les cybercriminels en tant qu'agriculteur?
Donc moi je pense que c'est ce qui est important, c'est d'avoir un soutien, soit de l'État par des subventions pour aider. Donc je pense que la plupart des gouvernements maintenant réalisent que tout ce qui est l'agriculture, c'est donc si je reviens en 10 ans en arrière, les infrastructures critiques, les gens avaient en tête l'électricité, les communications. Mais dans un contexte de pandémie ou de guerre potentielle, je pense que la plupart des gouvernements réalisent maintenant que si on est capable de perturber l'approvisionnement en aliments ou la chaîne alimentaire dans un pays, si par exemple on veut mener une guerre ou faire même d'une cyberattaque qui va paralyser une partie des fermes, ça va avoir un impact énorme sur la population. Et donc on doit voir ça comme des infrastructures critiques ou des infrastructures en tout cas à haute valeur qui devraient être protégées. Donc je pense que c'est beaucoup à demander de dire aux agriculteurs, formez-vous et devenez des spécialistes en cybersécurité. Moi, des choses que je pourrais voir comme modèle, c'est si par exemple on a des coopératives agricoles qui permettent de mettre ensemble les ressources des fermiers, ben, j'imagine que ce type de coopérative pourrait aussi fournir une personne qui serait payée, qui fournirait une formation sur la cybersécurité ou qui essaierait d'aider les agriculteurs à monter en compétences pour éviter de mettre le fardeau sur eux. Il y a des choses par contre qui sont évidemment hors de contrôle des fermiers. Donc par exemple, si le matériel motorisé intelligent est fait par une entreprise où c'est vraiment extrêmement fermé, on ne peut pas avoir d'audit de sécurité. Je pense qu'il y a aussi une partie importante des entreprises qui font tout ce matériel-là d'être ouvert et de se mettre avec les parties prenantes, les représentants des fermes laitières, mais aussi des experts en cybersécurité pour être sûr que le niveau de leur appareil est vraiment un niveau de bonnes pratiques de sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je sais que souvent les chercheurs en cybersécurité qui regardent la sécurité des appareils utilisés dans les fermes se heurtent souvent au fait qu'il n'y a pas de données. En fait, il y a très peu de transparence sur quels sont les standards de sécurité, qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, en cybersécurité, on a un principe qu'on appelle le principe de Kharkov, en fait, qui dit que la sécurité d'un système ne devrait pas reposer sur l'obscurité de comment il fonctionne, mais plutôt sur un petit secret. Donc si je prends l'exemple d'un mécanisme de chiffrement, c'est pas parce qu'une entreprise me dit j'ai un mécanisme qui est super sécuritaire, mais je peux pas vous dire comment ça fonctionne, qu'on devrait avoir une confiance aveugle. Au contraire, les mécanismes qu'on utilise sur Internet comme AES ou RSA, c'est des standards de chiffrement ou de signature électronique. L'algorithme est public, donc la manière dont on chiffre ou on signe les données est publique, mais c'est un petit secret qui protège ces données-là, et aussi surtout le fait qu'il y a eu des milliers d'experts en sécurité qui essaient de casser ces algorithmes qui n'ont pas réussi. Donc voilà, je pense que la transparence et l'implication des experts en sécurité aussi au niveau de cette entreprise-là serait un pas à faire en avant.
D'accord, OK. Donc, est-ce que on devrait, mettons, d'un commun effort en tant qu'agriculteur, demander au gouvernement de mieux soutenir ses fermes laitières, ou bien fermer l'ensemble des agriculteurs, parce qu'en fait, toutes les productions peuvent être à risque, là?
Ouais, moi je suis pas politicien ni économiste, mais ce qui serait une bonne chose, c'est d'avoir ça pourrait être des subventions qui seraient dédiées, donc pour éviter d'ajouter un coût supplémentaire aux fermiers, d'avoir des subventions dédiées pour mettre à jour l'infrastructure de sécurité et, comme je disais, peut-être d'avoir des moyens financiers pour s'assurer que ça ne demande pas à l'agriculteur de devenir un expert en cybersécurité ou de tout financer lui-même, parce qu'une chose qui est importante avec la sécurité informatique ou la cybersécurité, c'est que souvent c'est un coût important, et aussi souvent, tant que tout va bien, on se rend pas compte. On voit pas vraiment la valeur d'avoir investi dans la cybersécurité tant que tout va bien. parce qu'on a l'impression qu'il y a
Oui.
des dépenses qui finalement ne servent à rien. C'est quand tout va mal où là on doit investir beaucoup d'argent en avance. Donc je pense que d'avoir des programmes de soutien financier aux agriculteurs ou à des coopératives qui peuvent aider les agriculteurs au niveau de la sécurité, ça serait des points importants.
Donc, est-ce que penses-tu que, Sébastien, que les lois actuelles, mettons, au Canada ou même ailleurs dans le monde, sont adéquates pour le moment en niveau de protection?
Je pense pas, donc je suis pas juriste, je pourrais pas statuer sur le côté la loi ou exactement au niveau du Québec ou du Canada en général, mais globalement, je pense qu'il y a un effort important à renforcer la réglementation. En particulier, moi, je travaille beaucoup sur les enjeux de vie privée, donc vous me direz quel est le rapport entre les données personnelles et les données des fermes laitières. En fait, le rapport est très fort dans le sens où les données des fermes laitières, tout comme les données personnelles des individus, c'est des données qui sont importantes pour les fermes laitières, pour protéger, si on protège la confidentialité, c'est important pour que le modèle d'affaires et la ferme fonctionnent. Et je dirais que il y a aussi toute la question de quand je produis des données avec un équipement collecté dans une ferme, je considère que la propriété et le contrôle de ce qui est fait de ces données devraient appartenir aux agriculteurs. Donc il y a aussi tout un enjeu, je pense, au niveau de la mise à jour des règlements sur s'assurer que l'agriculteur qui utilise un appareil particulier reste le propriétaire des données et des services qui peuvent être faits sur les données. Alors qu'en ce moment, je vois beaucoup des cas où, par exemple, vous allez acheter un tracteur intelligent. Vous parlez tout à l'heure de tracteurs qui se conduisaient automatiquement.
Oui.
L'entreprise va vous dire, OK, donc vous payez très cher cet équipement-là, vous allez payer très cher pour la maintenance. Puis l'entreprise va vous dire, ah bah, tous les données qui sont récupérées, en fait, moi, je vais vous revendre des services pour vous aider à mieux optimiser votre ferme. Mais l'agriculteur n'a pas accès directement aux données. Alors que, et parfois, on va avoir des clauses qui vous disent, si vous allez vous-même essayer d'accéder aux données ou essayer de réparer vous-même l'appareil, vous allez perdre la garantie. Donc, on essaie de faire peur en disant qu'il n'y a pas de droit à pouvoir soi-même hacker dans le sens positif du terme, c'est-à-dire aller bidouiller avec la machine. Donc je pense qu'il y a un aspect important où les réglementations devraient améliorer la sécurité en général, comme je disais, de voir l'agriculture comme une infrastructure critique, mais aussi s'assurer que les données que les fermiers produisent leur reviennent bien et que c'est eux qui puissent avoir le contrôle. Donc peut-être qu'ils voudraient les revendre à ces compagnies-là, mais je pense que ça devrait être leur choix et éventuellement ça devrait être un financement supplémentaire qui leur est donné s'ils choisissent de valoriser ou de revendre les données d'une certaine manière, plutôt que ce soit l'entreprise qui dise vous êtes captif de notre équipement, puis on peut vous fournir des services intéressants, mais payez une redevance supplémentaire pour ce service-là.
En effet, Sébastien, j'ai déjà entendu parler de ce genre de choses-là chez les équipementiers agricoles. Puis, en fait, je pense qu'il y aurait quasiment sujet à projet de loi, parce que c'est un peu aberrant quand même quand on pense que l'agriculteur a investi aussi cher dans ses équipements, puis n'est pas maître chez eux, on va dire en parenthèse.
Donc juste pour continuer, c'est pour ça que j'ai une analogie très forte avec les mises à jour qu'on a eues récemment au Québec sur la protection de la vie privée, mais aussi les discussions sur le droit à la réparabilité ou des choses qu'on fait avec nos équipements comme nos téléphones, mais qui pourraient, à mon avis, avoir un projet de règlement spécifique pour les agriculteurs par rapport à leurs données et leur équipement aussi.
D'accord. Comme prochaine question, admettons qu'un agriculteur subisse une cyberattaque, qu'est-ce qu'il doit faire le plus rapidement possible pour minimiser les dégâts?
Donc souvent ce qui va arriver, c'est qu'il va devoir déconnecter tout. Donc je dirais la meilleure chose à faire, c'est de prévoir un plan de récupération en avance. Si
OK.
vous n'avez pas prévu le risque de cybersécurité et que vous avez une grande partie de votre chaîne ou des fonctionnalités dans la ferme qui sont automatisées, c'est beaucoup mieux d'essayer de prévoir à l'avance un plan de récupération, une sauvegarde des données. Donc en gros, pour résumer, il vaut mieux être proactif et essayer d'avoir prévu un plan pour se remettre à niveau en avance que de devoir gérer la crise après. Donc souvent, je conseillerais quand même de faire appel avec quelqu'un qui a l'expertise nécessaire, donc soit une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité pour aider les petites moyennes entreprises ou même les fermes laitières. Je ne sais pas s'il y en a, il y en a peut-être qui existent. Je n'ai pas de nom ou de particulier à donner là, mais
Non, pas à ma
je dirais
connaissance.
le mieux, ça serait d'avoir essayé d'avoir un audit de son infrastructure en avance et d'avoir prévu un plan de récupération, hein, déjà pour sauvegarder les données, mais aussi comment est-ce qu'on peut remettre, rebooter, je dirais, tout le système de manière efficace plutôt que de devoir gérer ça dans l'urgence et dans le stress où on va prendre des décisions très vite. On va peut-être avoir quelqu'un qui va nous proposer, ah, je suis capable de vous remettre sur flot, mais ça va coûter extrêmement cher. Alors que si on a pris le temps à l'avance d'essayer d'avoir ces étapes-là, on peut aussi minimiser l'impact financier et peut-être minimiser le temps de redémarrage.
OK. Donc, si je fais un résumé, là, c'est que, en fait, le plus rapidement possible, c'est de débrancher les appareils pour être le plus fermé possible, question de minimiser les dégâts. Mais après ça, saisir son téléphone et d'appeler des experts en cybersécurité. Puis, justement, probablement de se regrouper pour, comme tu parlais tout à l'heure, faire des coopératives. Je trouve l'idée vraiment intéressante, puis ça mériterait d'être propulsé. Sébastien, on doit s'arrêter pour une courte pause, et le message de notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Mais restez avec nous, chers amis, on continue à jaser de cybersécurité avec notre invité Sébastien Gams, juste après la pause. À tout de suite.
Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit, entre autres, que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada.
Nous sommes de retour à Entre deux traites avec Sébastien Gams, professeur au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal. Sébastien, en vrai, là, quelles sont les conséquences sur une ferme laitière, là? Par rapport, mettons, je suis producteur laitier, qu'est-ce qu'un cybercriminel pourrait cibler comme, mettons, comme attaque là, par rapport à moi, là, comme producteur laitier, là. Je ne sais pas si ma question est claire, là.
Oui, c'est très. Ben, il y a plusieurs types de choses qui peuvent. Donc, une des choses qu'ils pourraient faire, c'est provoquer un arrêt de la production, c'est-à-dire paralyser complètement les systèmes automatisés. Éventuellement, ils pourraient aussi accéder à des données ou bloquer les données. Dans ces deux cas, ce qui peut arriver aussi parfois, c'est qu'il y a des usages de rançongiciels, donc des ransomware en anglais. Donc, il va contacter ensuite l'agriculteur en disant bah, si vous voulez accéder à vos données ou si vous voulez récupérer l'accès à votre système, envoyez-moi une certaine somme d'argent en Bitcoin, par exemple, sur un certain compte. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est ce qui arrive souvent. Ce qu'il pourrait aussi faire, bah, c'est si vous n'avez plus accès à une infrastructure ou une information qui impacte le bien-être de vos animaux, ça pourrait amener à perdre du bétail, à la mort de certaines bêtes ou en tout cas à la dégradation de la santé de ces bêtes-là. Donc, il y a souvent les capteurs qui servent à s'assurer du bien-être de la vache, aussi la quantité de lait obtenu. Et donc, on peut imaginer que le coût de la perte d'une vache serait aussi un coût financier extrêmement important. Donc, je dirais ça c'est des exemples concrets où, évidemment, on perd des bêtes, on perd de l'argent, on a sa production qui est arrêtée. Qui ont un impact concret sur le quotidien d'un fermier dans une ferme laitière.
C'est sûr que il faut, t'sais, en cas de cyberattaque, puis que là, tous les systèmes plantent, tu l'as mentionné, la santé des animaux est en jeu parce que une vache qui n'est pas traite dans les délais habituels, t'sais, dans les fermes justement robotisées, on parle d'une traite aux 8 heures. Là, si la vache est chargée de lait, puis que le robot n'est pas au rendez-vous, on va avoir un sérieux problème avec la vache dans un court moment. Donc, j'imagine que l'appel de rançon va arriver pas longtemps après la cyberattaque.
Oui.
Ouais, mais justement, dans le cas d'une demande de rançon, est-ce qu'on doit acquiescer ou bien qu'on doit prévenir la police?
On devrait prévenir la police. Donc, c'est toujours le gros enjeu. Est-ce qu'on paye pour avoir accès à ces données ou pas? Mais je dirais que on devrait prévenir la police directement et ne pas accepter de payer, même si je peux comprendre pour un. Quelqu'un qui est impacté au niveau de sa ferme, ce qu'il veut, c'est pouvoir récupérer l'accès à son matériel, mais si de plus en plus de gens payent les rançons logicielles, les cyber-rançons, ça encourage les attaquants
à continuer.
À continuer à demander de plus d'argent. Donc, pour la collectivité, la société en général, on rentre malheureusement dans un cercle vicieux. Je peux comprendre qu'individuellement, il y a des cas, même dans des grands groupes, où on sait parfois qu'un grand groupe a payé des millions de dollars pour retrouver l'accès à ces données, mais je dirais qu'il faudrait éviter ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'avoir un plan de récupération, plutôt donc éviter de payer, et plutôt avoir un plan pour retomber sur ses pieds en ayant accès à l'expertise nécessaire.
Comme par exemple faire des sauvegardes.
Faire des sauvegardes des données, avoir fait en avance ce qu'on peut appeler du pentesting ou des audits de sécurité dans son infrastructure pour essayer de mettre à jour du mieux qu'on peut aussi. Donc, une des choses que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que les règles d'hygiène numérique, donc tout ce qui est faire des mises à jour régulières, avoir des mots de passe qui sont sécuritaires, donc difficiles à deviner, avoir un antivirus à jour, tout ça, c'est des choses évidemment qui s'appliquent aussi au niveau des fermes, comme ça s'applique dans les individus en général. Parce qu'une de ces règles d'hygiène numérique qui n'est pas respectée peut amener à l'accès aux données ou à des systèmes à un attaquant externe.
Oui. Puis justement, dans on va dire des très grosses fermes où il y a beaucoup de. Tu sais, il n'y a pas forcément une seule personne qui gère l'informatique. On parle de mots de passe ou tout ça, là. Est-ce que tu aurais une suggestion à faire à nos auditeurs, justement, pour assurer, malgré le flot le nombre important de personnes qui tournent autour de l'informatique sur la ferme, d'avoir une façon de garder le contrôle en tant que propriétaire d'entreprise?
Dans ce cas-là où la ferme est, où le nombre de personnes est important, je pense qu'il faut voir ça comme une petite et moyenne entreprise où ce qu'on voudrait, c'est compartimenter l'accès aux données en fonction des rôles. Donc, en général, en sécurité, on a un principe qu'on appelle le privilège du moindre accès qui est vous ne devriez pouvoir accéder à une donnée ou à une fonctionnalité du système d'information que si c'est nécessaire pour votre rôle dans l'entreprise. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est quand quelqu'un arrive, on essaye de lui donner accès aux fonctionnalités et aux données dont il a besoin par rapport à son rôle. Et éviter au contraire là, quelque chose où quelqu'un arrive, je ne sais pas, pour un stage de quelques semaines, puis il a accès à tout d'un coup sans avoir de restrictions. Et quand il part, on oublie de lui enlever son accès. Donc au contraire, avoir une vision. Évidemment, ça ne s'applique pas si on est dans des cas de petites fermes où le nombre des personnes est beaucoup plus limité. Mais dans un contexte de grande ferme, on peut voir ça comme le même souci qu'aurait une petite et moyenne entreprise où on veut avoir un contrôle d'accès sur qui a accès aux données et aux fonctionnalités pour éviter justement... Là, ça serait du coup un attaquant interne plutôt qu'un attaquant externe dont je parlais.
Oui. En fait, c'est d'user de vigilance surtout parce que quand on n'en met pas assez, justement, c'est des portes qui restent ouvertes puis des cyberattaques qui se font beaucoup plus facilement.
Oui.
Oui. On voit ça passer sur les, sur le réseau, tout ça. J'aimerais avoir ton idée sur ce genre de produit-là. C'est comme un VPN, OK? Je suis pas très calé en la matière, mais c'est apparemment que c'est pour protéger nos données, nos ordinateurs, tout ça, que ça aide énormément. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est un VPN, puis comment ça agit sur nos appareils?
Donc, un réseau privé virtuel, ou VPN en anglais, en gros, ça permet de protéger la confidentialité des données en passant par un proxy de confiance qui va relayer les communications à l'externe de manière sécurisée et aussi s'assurer que quand on se connecte, par exemple, dans l'infrastructure de sa ferme depuis l'extérieur, les personnes qui ont accès sont bien des personnes qui sont authentifiées au niveau de la ferme. Donc c'est un outil, je dirais, standard qui peut être utilisé pour essayer d'améliorer la confidentialité des communications et aussi essayer d'avoir une meilleure authentification, s'assurer que les personnes qui ont accès ont effectivement installé le VPN et ont une accréditation par rapport à la ferme.
OK. Donc... Si, mettons, les compagnies qui nous fournissent de la technologie agricole, il y aurait avantage justement à investir là-dedans pour fournir à ses clients, nous, les producteurs agricoles, des produits mieux protégés.
Oui, je pense qu'on devrait considérer que par défaut, les données devraient être chiffrées aussi Donc avoir un tunnel sécurisé ou du chiffrement de bout en bout. Parce que souvent, on va considérer que c'est des choses qui sont que importantes pour des données personnelles, mais en fait, comme je disais, les données des fermes sont des données essentielles pour le fonctionnement de la ferme, et donc on devrait avoir aussi par défaut le chiffrement de toutes ces données, un contrôle d'accès où ces données ne sont pas accessibles en ligne publiquement, mais il faut vérifier l'identité de la personne avant de lui donner accès. Donc toutes les bonnes pratiques de sécurité standard qu'on aurait dans une entreprise ou même pour un individu en général.
Puis, je crois qu'il y a des entreprises qui s'occupent de stocker les données, mettons, de façon sécurisée pour d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que c'est une bonne idée de faire appel à un fournisseur reconnu pour avoir une sauvegarde et un stockage de ces données. Donc après, ce que je conseille toujours, c'est aussi d'aller voir c'est quoi les clauses qu'il y a. Est-ce que les données restent la propriété de l'agriculteur? Est-ce qu'il y a une garantie, si jamais les données sont perdues, de rembourser financièrement ou d'aller voir tous ces détails-là qui permettent de vérifier vraiment pour quel service on paye et quel niveau de sécurité qui est mis en place. Est-ce qu'il y a un audit de sécurité qui est fait par des entreprises externes sur ces plateformes-là? Donc, de vérifier un peu souvent la difficulté, c'est entre les déclarations commerciales, marketing et ce qui est fait en vrai. C'est toujours important d'aller voir dans les détails quand on consigne un contrat avec ce type d'entreprise-là. Est-ce qu'elles ont une certification ISO d'un certain niveau parce qu'elles ont eu un audit externe ou est-ce que c'est juste une entreprise qui a été créée où on déclare que tout est sécuritaire mais sans donner une certaine transparence sur les mesures qui sont mises en place?
Donc, ça serait important en tant que producteur laitier de connaître un minimum ce qu'on a besoin pour protéger nos fermes. Donc, de la sensibilisation ou de la formation à recevoir de notre côté, mais aussi que nos instances gouvernementales et les entreprises qui nous fournissent des produits qui sont connectés sur Internet jouent aussi leur rôle de protéger nos entreprises.
Exactement. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faudrait aussi investir dans la sensibilisation et la formation à la cybersécurité pour les fermiers. Mais comme je le disais, ce qui serait important aussi, c'est on peut pas mettre tout le poids sur le fermier. Donc, c'est d'avoir aussi des représentants des fermiers qui, eux, ont des personnes spécialisées en cybersécurité, qui peuvent répondre à la demande ou aller valider les clauses des contrats pour les fermiers. Donc, ça revient un peu à l'idée de la coopérative, mais ça pourrait être peut-être d'autres ressources en tout cas qui seraient facilement accessibles et qui ne coûteraient pas non plus des sommes trop importantes pour les fermiers pour les aider sur la cybersécurité. Donc peut-être un organisme qui représente au niveau de la société les fermiers, j'imagine qu'il pourrait même y avoir un organisme qui est dédié à la cybersécurité en agriculture, qui serait comme une porte d'entrée juste pour tous les fermiers qui pourraient les contacter, qui les enverrait vers des ressources qui seraient financées par de l'argent public, mais pas simplement des cabinets privés ou encore on demande de l'argent supplémentaire aux fermiers pour ces services.
C'est une idée très intéressante à développer. Puis j'espère que les auditeurs qui nous écoutent vont prendre bonne note. Et puis, c'est en se regroupant. L'union fait la force, comme on dit. Sébastien Gams, je vous remercie d'avoir partagé de votre expertise aujourd'hui avec nous à Entre deux traites. Et puis, on se dit peut-être une autre prochaine fois parce que je pense que le sujet va carrément, probablement évoluer. Puis j'espère un jour qu'on va en rediscuter, mais pas négativement.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
Merci. C'est tout pour cet épisode d'Entre deux traites. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Et merci à notre équipe de production, Carl Bélanger et Bruce Sargent. Un énorme remerciement à notre invité, Sébastien Gams, professeur au département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal. Si vous avez des questions ou des suggestions pour l'émission, visitez notre page Facebook du Balado ou notre compte X. Justement, je vous invite fortement à alimenter ça parce que c'est comme on l'a dit dans l'émission, c'est par le partage où quand on se regroupe, on devient plus fort. Donc, je pense que ça serait important de sonder justement la question sur nos fermes laitières, voir si la cybersécurité chez nous. c'est vraiment adéquat. Parce que je pense que, comme notre invité l'a mentionné, ça peut être vraiment grave sur nos fermes. Ça peut occasionner des répercussions économiques et même émotives énormes. Donc, on n'a pas envie de vivre ça. Je pense que chacun de vous devrait justement faire l'examen sur sa ferme. Est-ce que ma ferme est bien protégée ou contre les menaces informatiques? Donc, je vous invite à faire ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites, le balado pour les producteurs laitiers par un producteur laitier. Bye-bye!